Vous écoutez RTL.
On va parler football maintenant, je crois, puisque c'est l'heure de rentrer dans les coulisses de la victoire des Bleus pendant la Coupe du Monde. Ils nous ont fait rêver cet été. C'était encore très sympa dimanche dernier au Stade de France avec ce moment de partage collectif. Il y a des secrets encore à découvrir sur cette victoire des Bleus. Et pour ça, notre invité, Baptiste Després, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro. Vous avez suivi les Bleus pendant cette Coupe du Monde, 55 jours en immersion. On va y revenir. Mais d'abord, dimanche, cette fête au Stade de France, qui était belle, c'était très calibré ou il y a eu une part d'impro là-dedans?
Il y a eu zéro part d'improvisation.
C'est vrai. Alors moi j'avais l'impression qu'il y avait plein de trucs improvisés, j'étais au stade.
Ça n'empêche pas que c'était très bien.
Oui.
Mais non, c'était calibré parce qu'il faut savoir que l'équipe de France, en tout cas l'encadrement de l'équipe de France, était échaudé par ce qui s'était passé avec les Champs-Élysées, la descente, et tous les joueurs étaient déçus par cette descente un peu trop rapide des Champs-Élysées au mois de juillet. Du coup, ils ont tout pensé, tout imaginé, et ça part à la fois du président de la fédération, donc Noël Le Graët, jusqu'à l'entraîneur Didier Deschamps et les joueurs. Qui ont aussi eu leur mot à dire, notamment dans le choix des musiques, des groupes qui sont intervenus après la rencontre. Et oui, tout a été calibré ce soir-là.
Et parmi les groupes invités, il y avait Magic System, repris par le Stade de France. Moment très sympa de cette fête.
Ouais.
Tiens, d'autres coulisses et d'autres surprises à venir sur RTL.
RTL.
J'avais 11 ans quand la France l'a gagné. Dès que j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, ouais, je veux faire pareil. Quoi.
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
Il y a eu des histoires qui ont été écrites, on ne peut pas revenir dessus. Mais là, on est face à une page blanche.
C'est fait. Mais c'est fait. Je te dis que c'est fait. Minute.
La curiosité est un vilain défaut.
Les Bleus sont champions du monde.
La folie de Vicente Lizarazu et Greg Margoton sur TF1 dans les dernières secondes de la finale de Coupe du Monde avec cette deuxième étoile, cette victoire des Bleus. Et on vous propose de revenir, de passer 55 jours en immersion avec ces champions du monde français grâce à nos invités Baptiste Després, journaliste au Figaro, et Nicolas Georgerot qui vient de nous rejoindre du service des sports RTL. Évidemment,
bonjour.
Vous étiez tous les deux en Russie. Vous y avez passé donc 55 jours, c'est ça, l'un et l'autre?
On se parle encore.
Hein. Exactement. Ouais. On peut même rajouter toute la période du stage de préparation à Clairefontaine. Finalement, dès la liste de Didier Deschamps le 17 mai, tous les suiveurs de l'équipe de France, on a basculé vraiment en mode Coupe du Monde du 17 mai jusqu'au 15 juillet.
Est-ce que c'est encore possible, Baptiste Després, de créer un lien avec les joueurs à l'ère de la com, des conseillers, des agents, du staff de l'équipe, de la sécurité?
Un lien professionnel, c'est encore possible.
Oui.
Après, ça demande un travail de longue haleine parce qu'il faut les voir en amont, il faut aller les voir la plupart du temps chez eux, entre guillemets, là où ils sont dans leur club. Il faut bien s'entendre aussi avec leur entourage et c'est ça qui est un peu difficile parce que l'entourage est de plus en plus conséquent.
Il faut séduire l'entourage d'abord, c'est ça?
Il faut séduire l'entourage, il faut séduire le joueur aussi. Il faut être pro, forcément. Faut pas, entre guillemets, faire de crasse aux joueurs parce que sinon ça passera une fois, mais pas deux. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. C'est encore possible, mais ça prend du temps.
Mais je me souviens qu'à l'époque de, je crois que c'était 92, il y avait eu un euro en Suède. À l'époque, c'était Platini qui était sélectionneur. Et il y avait un match qui était organisé, un petit match avec les joueurs, avec le staff de l'équipe de France et des journalistes le matin même des matchs des Bleus. Enfin, c'est totalement improbable aujourd'hui, ça n'arriverait évidemment pas, ça.
Non, c'est vrai,
tout est verrouillé aujourd'hui.
Tout est verrouillé. En plus, sur un événement comme la Coupe du Monde, c'est pas là où vous faites un peu de lien avec les joueurs. Comme disait Baptiste, c'est vrai que le lien, il est entretenu avec les joueurs quand ils sont dans leur club, tout au long de la saison, parce qu'on peut les voir à l'entraînement, on peut les voir lors des matchs. Mais sur une compétition comme celle-là, où tout est calibré, où il y a un protocole très strict, c'est pas là où vous tissez un lien avec les joueurs.
Nous, on est derrière la télé ou derrière notre radio, alors on se dit on aime bien tel ou tel joueur, on se dit toujours bon, est-ce qu'il est sympa celui-là, est-ce qu'il est accessible? Nicolas Georgerot, quels sont les Bleus les plus accessibles?
Alors il faut bien s'entendre sur accessible, parce que c'est vrai que comme les fenêtres de rencontre sont extrêmement courtes, il y a les conférences de presse du jour généralement.
Vous sourire, vous
mais
parler,
voilà. Alors il y a Adil Rami, Adil Rami qui a un côté très sympa, qui donne toujours un petit peu plus que d'autres sur quelques détails sur la vie de groupe. Hugo Lloris aussi, qui est très lucide, très juste dans ses analyses d'après-match, où chaque mot est pesé, mais ça veut vraiment dire quelque chose.
Il est meilleur en après-match d'ailleurs qu'en avant-match.
Exactement, voilà.
Parce qu'en fait, en conférence de presse d'avant-match, il est devant 100 à 150 journalistes. Bon, la presse française, mais presse aussi étrangère. Et il sort pas des clous. Parce que, il sait que la moindre petite phrase, le petit mot va être repris, voire déformé. Et en revanche, en après-match, il est très bon. C'est ce que disait Nicolas dans l'analyse technique.
Alors, le plus discret, le plus timide aussi, en tout cas, en dehors du terrain, c'est N'Golo Kanté. Dimanche, les joueurs lui ont rendu hommage en faisant chanter à tout le stade cette chanson à sa gloire. N'Golo.
gentil, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté.
J'ai chanté ça tout l'été, celle-là et celle de Pavard. Il y a une version Vladimir Poutine aussi qui est assez drôle
ça
et un peu plus difficile à chanter à la radio.
Ce genre de chanson, là, par exemple, cette chanson sur N'Golo Kanté, c'est dans le bus, dans les vestiaires.
De la part de certains confrères qui ont trouvé l'air.
Des journalistes.
C'est Thomas Touroute, je crois.
En partie, effectivement, avec aussi des journalistes de SoFoot. Oui. Et donc, les paroles ont été un petit peu adaptées, puisque dans la version qu'il y a eu utilisée par les joueurs sur la fin de la Coupe du Monde, mais aussi au Stade de France dimanche, bientôt 10. Sur les Champs-Élysées, oui. N'Golo Kanté, c'est devenu. Il triche aux cartes, N'Golo Kanté.
Mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Triche aux cartes, Baptiste Després. Bah,
c'est ce qui est sorti à chaque fois. Il le chambre là-dessus, parce qu'il cherche un petit truc, parce que cet homme paraît comme ça un peu extraordinaire, mais il a aussi des défauts. Et pour les uns, c'est qu'il triche aux cartes. C'est ce que nous disaient certains joueurs de l'équipe de France. Donc c'est plus chercher un petit peu la petite bête, l'embêter, mais c'est pas bien méchant.
Ben non, et puis il faut bien trouver quelque chose pour embêter
quand même,
un joueur
minimum.
Pareil. Baptiste Després, vous publiez Champion du Monde, 55 jours en immersion avec les Bleus chez Mareuil Édition. Il y a encore plein d'histoires à raconter. On va forcément monter dans le bus des Bleus sur les Champs-Élysées et aussi vous raconter une histoire d'extincteur.
Griezmann qui ne peut pas frapper, derrière lui, il y a Paul Pogba, une première fois et la deuxième,
RTL.
Thomas Hugues.
Passe partout côté.
Sidonie Bonnec.
Charo Matuidi.
La curiosité.
Champions League Varane.
Est un vilain défaut.
Quelle ambiance dans les vestiaires des Bleus après cette victoire, ce but de Paul Pogba en finale de Coupe du Monde. La
c'était
curiosité.
Pogba en MC, quoi.
C'est génial.
C'est drôle, vraiment.
La curiosité au cœur de l'histoire des Bleus pendant la Coupe du Monde avec des anecdotes racontées par nos invités Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL et Baptiste Després, journaliste au Figaro. Il y a un épisode qui nous a tous marqués, qui a commencé à faire polémique juste après la victoire des Bleus. C'est ce bus qui passe que 15 minutes sur les Champs-Élysées. C'est vous, Baptiste Després, qui d'ailleurs sortez l'info. Pourquoi une cadence comme ça accélérée sur les champs? D'où vient la consigne?
En fait, la raison est simple, c'est que depuis le début, à partir du moment où ils sont repartis de Moscou jusqu'à Paris, ils étaient en retard sur tout. Ils étaient en retard sur le tarmac, ils ont mis plus de temps que prévu, ils ont mis du temps pour récupérer le bus pour revenir justement sur les Champs-Élysées. Et en fait, une fois arrivés sur les Champs-Élysées, ça a commencé, donc tout allait bien, et on leur a juste ordonné d'aller plus vite, parce qu'il fallait se rendre à l'Élysée. Le président les attendait, avec notamment pas mal d'enfants. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait 1000 ou 2000 enfants qui étaient
prévus. Oui, c'est une très belle fête, d'ailleurs. Mais...
Exactement. Et en fait, officieusement, il fallait être à l'Élysée à telle heure, parce qu'il y avait notamment les journaux de 20h, avec les images à prendre, à capter. Et les joueurs n'ont pas eu finalement débat. Enfin, il n'y a pas eu débat là-dessus.
Ils étaient déçus les joueurs.
Ils étaient complètement déçus. Et c'est pour ça qu'ils ont fait
le bain de foule, quoi.
Parce que ça a complètement coupé le bain de foule. Ils s'y attendaient. Ils avaient, pas tous, mais en tout cas, ils avaient déjà vu pas mal d'images de 98 et la fête que ça, c'était. Et là, ils étaient énormément déçus.
C'est vous qui sortez l'info donc d'une accélération, d'un tempo donné sur ordre de l'Élysée. Comment réagissent les conseillers du président Macron?
Très mal. Donc, du coup, on sort l'info. Ils rentrent le lundi. Nous, on sort l'info le mercredi. Mm-hmm. Donc, daté mercredi dans le Figaro. En plus, on n'avait pas titré dessus. C'était un petit encadré et on nous appelle, on m'appelle en me disant, donc la communication de l'Élysée m'appelle en me disant, écoutez, il y a un problème, qu'est-ce que c'est que ce papier? Pourquoi vous dites que c'est nous? Pourquoi c'est de notre faute, etc. On a forcément intimé aucun ordre d'aller plus vite au niveau du bus.
Donc
que vous
il y a
répondez,
eu un démenti de l'Élysée. Quoi,
et donc ils ont demandé un démenti. Sous un ton un petit peu particulier, mais donc forcément nous après c'est l'information, donc on a apporté un démenti de la part de l'Élysée, mais en tout cas nous nos différentes sources nous disaient c'est impossible, on nous a ordonné d'aller plus vite et donc forcément les Bleus sont pliés aux ordres du chef de l'État.
Et depuis on a même rajouté du Benalla dans l'histoire.
À ce moment-là il y a pas Benalla effectivement.
Voilà. Alors comme promis cette histoire d'extincteur maintenant, on est le lundi 2 juillet dans l'hôtel des Bleus. Qu'est-ce qui se passe à 3h du matin?
Il se passe que l'équipe de France déjà Didier Deschamps a donné un peu de temps à ses joueurs pour fêter la victoire.
Ils contre l'Argentine en huitième de finale.
Exactement, en huitième de finale quand ils gagnent. Et ils ont le droit d'aller dans un restaurant-bar. Donc l'équipe de France, en tout cas l'entourage, ne dit jamais que c'est une boîte de nuit. Donc c'est juste un bar, ils vont boire un coup.
En tout cas, ils en profitent, ils passent une bonne soirée.
Exactement,
les Bleus.
Donc ils rentrent jusqu'à officiellement.
C'était pas une boîte de nuit, d'accord.
C'était pas une boîte de nuit, pas du tout. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait rien du tout. Ouais. Et ils sont rentrés au-delà de minuit.
Champomis.
Voilà, du champomis. Et en fait, certains joueurs étaient déjà quand même dans l'hôtel, notamment Adil Rami.
C'est ça ? Non.
Et la plupart, quand ils sont rentrés, c'était un petit peu le bazar, forcément, dans les chambres, en tout cas dans le couloir. Et Adil Rami, finalement, pour se prévenir d'un éventuel danger, avait pris en fait un extincteur depuis le début du rassemblement dans sa chambre. Et là, il voit les joueurs arriver, ça toque à la porte, une porte, deux portes, trois portes, la sienne. Et là, forcément, il leur réserve une surprise. Et là, il arrose tout le monde avec l'extincteur. Et le problème, c'est que ça déclenche l'alarme dans l'hôtel. Donc, à 3h du matin, gros problème. Et là, Didier Deschamps, Guy Stéphane, son adjoint, sortent, pas en pyjama, mais en survêtement. Et Adil Rami l'a raconté. C'est nos confrères de Beansport qui ont sorti cette information. Ouais. Il s'est dit, ça y est, la Coupe du Monde est terminée pour moi.
Je vais me faire virer, quoi.
Exactement, fini. Et en fait, finalement, Didier Deschamps a été assez compréhensif. Adil Rami s'est excusé le lendemain et c'est bien passé. Mais il n'y a pas eu d'autres soirées comme ça jusqu'à la finale.
Ouf, le jour de la finale, après la victoire, ce dont tout le monde rêve, évidemment, c'est de toucher la Coupe du Monde. Est-ce que c'est possible? Réponse juste après la pause, les curieux.
La curiosité d'un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mbappé face à Vida. Oh
sur RTL.
Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez.
Ils sont devenus des héros le 15 juillet dernier en remportant la Coupe du Monde, la deuxième étoile. Mais que s'est-il passé dans les coulisses? C'est ce qu'on découvre avec nos invités, les journalistes Baptiste Després et Nicolas Georgerot. Tiens, ce 15 juillet, justement, Nicolas, vous êtes en zone mixte. Alors, vous nous rappelez d'abord ce que c'est, et puis, qu'est-ce qui s'y passe dans la zone mixte?
C'est cette zone où on croise les joueurs après le match. On a souvent 2-3 minutes avec chaque joueur, mais ça va relativement rapidement. Et 15 juillet, vous imaginez, évidemment, la France championne du monde, il doit y avoir peut-être 80-90 journalistes français dans cette zone mixte, plus les journalistes étrangers, tout le monde se bouscule.
Et là, Raphaël Varane apparaît. Qu'est-ce qu'il a dans les mains?
Avec la Coupe du Monde dans les mains. Et il est à 70-80 cm de nous. On est tous en train de poser des questions. Et puis tout le monde se dit ce serait peut-être sympa de faire une petite photo de la Coupe du Monde avec Raphaël Varane.
La toucher. Effleurer la Coupe du Monde, non?
Et n'y pensez pas. N'y pensez pas, puisque vous avez aussi une armée de volontaires de la FIFA qui sont là. Et dès que quelqu'un a dégainé un téléphone, en fait, tout le monde était là pour rabaisser les bras. Puisque vous ne pouvez pas faire de photos de la Coupe du Monde. C'est arrivé quand même à quelqu'un de RTL, Sinamir, reporter qui nous accompagnait, qui était proche des vestiaires, a réussi à faire un selfie avec Raphaël Varane et la Coupe du Monde. Mais c'est quasiment l'un des seuls à avoir réussi, mais on n'avait pas l'autorisation de photographier la Coupe du Monde.
Tiens, d'ailleurs, la Coupe du Monde que vous avez quasi touché, en tout cas caressé des yeux, puisqu'elle était à 70 cm de vous, Nicolas Georgerot, le 15 juillet, est-ce que c'est la même qu'on a vu au Stade de France dimanche dernier?
Non, c'est pas la même, parce que la vraie Coupe du Monde, celle qui est en or massif, elle reste un quart d'heure dans les mains de l'équipe championne du monde. Le temps des photos et le temps de la levée sur la pelouse et sur le podium lors de la finale, 15 minutes. Et ensuite, il y a quelqu'un dans les vestiaires qui apporte une valise en aluminium où il y a une réplique. Et c'est cette réplique ensuite qui reste avec les joueurs et avec la fédération.
Ces joueurs sont extrêmement surveillés tout le long de la Coupe du Monde. Baptiste Després, vous le racontez dans votre livre publié aux éditions Mareuil, ils n'ont pas le droit notamment de tweeter ou de faire un usage excessif des réseaux sociaux. Quelle est la consigne que leur donne Didier Deschamps?
Alors, quand on en parle à Didier Deschamps, il nous dit « j'ai pas de consigne, je donne pas de consigne à mes joueurs ». Mais officieusement, il y a clairement une consigne. Ils n'ont pas le droit déjà d'avoir le téléphone pendant qu'ils déjeunent et pendant qu'il y a toutes les séances de vidéos, ou notamment quand ils discutent avec le coach. Après, sur 6 semaines, c'est très long, ils sont assez grands, donc ils ont leur téléphone tout le temps, ils en ont un voire deux téléphones. Ils ont le droit de mettre des scènes de vie quand ils jouent aux cartes, quand ils jouent à la console, quand ils sont dans leur chambre d'hôtel. En revanche, Didier Deschamps, il y a une chose sur laquelle il fait très attention, c'est qu'il veut aucune scène, par exemple, autour des piscines. Parce qu'il y a eu des vidéos autour des piscines en 2014 au Brésil, et en fait, les gens se disent, là, ils sont en vacances, ils sont à la piscine, ils sont tranquilles. Donc, il est intransigeant là-dessus. Et aussi
rien n'a débordé. Et aussi, pardon.
Et aussi, pardon, sur le côté, aucune vidéo pendant les séances vidéo, et aucune vidéo dans le vestiaire.
C'est-à-dire pendant les séances vidéo, c'est-à-dire sur les mises en place tactiques, pour que ça ne donne pas d'infos éventuellement aux concurrents.
Donc
de l'équipe,
ça restait sommaire
de
sur le côté quand ils jouent aux cartes, quand ils jouent à la console.
Mais est-ce qu'ils s'ennuient pas parce que c'est long, quoi. Il est passé à quoi leur journée, les joueurs de l'équipe de France?
Ils s'ennuient comme finalement nous, les journalistes, on ne s'est pas ennuyés parce qu'on avait beaucoup de travail. Ouais. Mais eux, en dehors de l'entraînement qui était la plupart du temps en fin d'après-midi, la conférence de presse, il n'y avait que 2 joueurs par jour qui étaient aux conférences de presse. Donc entre le matin jusqu'au soir, ils s'ennuient parce qu'il y a les soins. Il y a des séances de vidéo par le coach.
Il y a la sieste, peut-être?
Il y a la sieste, mais ça n'excède pas 45 minutes, 1 heure. Ils ne font pas 3 heures de sieste. Et puis après, il y a l'entraînement en fin de journée, il y a le repas. Donc oui, effectivement, ils s'ennuyaient. Les premières semaines, c'était compliqué parce qu'en plus, ils étaient à Istra, donc à 80 km de Moscou est complètement fermée. Ils n'allaient pas voir les personnes, ils n'allaient pas voir les habitants. Quand on discutait avec les habitants, ils savaient à peine qu'il y avait, que l'équipe de France était à Istra. Donc oui, il y avait des journées qui étaient très très longues de la part de l'équipe de France.
D'un mot, Nicolas, les ambianceurs de ce groupe, c'est
Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, ouais. Presnel Kimpembe, qui notamment avec une enceinte portable passait en zone mixte pour mettre de la musique comme ça. Blaise Matuidi n'est pas non plus dans les derniers quand ça commence à chanter et ça commence à danser. Puis Paul Pogba aussi, voilà.
Bon ben voilà, et encore merci à eux de nous avoir fait rêver. Merci.
Et à
merci
vous de nous avoir fait vivre ça aussi pendant des semaines.
C'est du bonheur. Nicolas Georgeron, on retrouve ce week-end évidemment sur l'antenne d'RTL pour la reprise du championnat de Ligue 1. Et Baptiste, on peut vous lire dans le Figaro. Et donc ce livre, Champion du monde, 55 jours en immersion avec les Bleus, avec une préface signée de l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan. C'est publié aux éditions Mareuil.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.